Dans un communiqué publié la semaine dernière, 5 ONG de défense des droits de l'homme, basées à Lubumbashi, demandent aux autorités judiciaires et parlementaires d'ouvrir une enquête sur les révélations des Panama Papers. Les Panama Papers, ce sont des documents publiés dans la presse depuis plus d'une semaine et qui révèlent que plusieurs personnalités du monde, dont des personnalités congolaises, ont recouru à des montages offshore pour dissimuler leurs actifs et ainsi échapper au fisc. Comment analyser cette démarche des ONG? On en parle avec Maître Hubert Chiswaka, il est directeur de l'Institut de Recherche en Droits Humains, IRDH, basé à Lubumbashi. Bonsoir Maître Hubert Chiswaka.
Bonsoir.
Serge Kadima, il est cadre du PPRD et communicateur de la Majesté Présidentielle. Bonsoir Monsieur Serge Kadima.
Bonsoir.
Et Israël Moutala, il est journaliste et analyste politique et économique. Bonsoir Monsieur Israël Moutala.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
5 ONG de défense des droits de l'homme, basées à Lubumbashi, demandent aux institutions tant judiciaires que parlementaires de la RDC d'ouvrir une enquête sur les allégations des fraudes fiscales massives et blanchiment d'argent opérées par des officiels, notamment les députés, les hommes d'affaires et autres entreprises de la RDC. Ces ONG sont l'ACIDH, ASADO, CDH, HDH, IRDH. Dans un communiqué publié jeudi dernier à Lubumbashi, ces organisations non gouvernementales estiment que les investigations devraient permettre d'inculper ou d'innocenter les personnes citées par Panama Papers. On écoute Maître Hubert Chiswaka, directeur de l'Institut de Recherche en Droits Humains, IRDH, l'une des organisations qui s'exprime au micro de Denise Maéo.
Les 5 organisations demandent aux autorités et parlementaires et puis le parquet général de la République qu'ils puissent approfondir les informations sur base des indications que la presse internationale a dénoncées et que nos organisations ont relayées. Ces personnes sont innocentes jusqu'à ce qu'on puisse prouver leur culpabilité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nos organisations mettent ces informations. Ce ne sont que des indications qu'on met à la disposition des autorités judiciaires et parlementaires, de sorte qu'on puisse soit les innocenter et soit les inculper. Nous insistons parce que, vous savez, ce sont des très hautes personnalités dans le pays et ce sont des grands hommes d'affaires qui ont des grandes réputations dans le pays, et quand on les cite sur la place publique internationale, il ne faudrait pas que l'État puisse se taire là-dessus.
Qu'est-ce que Panama Papers? Réponse avec Daniel Tambinzoni.
Les révélations de Panama Papers font état de fraude et évasion fiscale. Elles parlent des paradis fiscaux et des entreprises offshore. Elles ont été publiées la semaine dernière par 108 médias réunis dans un consortium international de journalistes d'investigation. Ces médias, avec le journal français Le Monde en tête, ont eu accès à une très grande masse inédite d'informations gardées secrètes provenant des archives du cabinet panaméen Mossack Fonseca, spécialiste de la domiciliation des sociétés offshore. Au total, 11,5 millions de papiers contenant ces informations ont été retrouvés. Les papiers de Panama ont révélé que des chefs d'État, des milliardaires, des grands patrons, des figures de sport, de la culture, de l'économie, des institutions financières créent des sociétés afin de dissimuler leurs avoirs. Et ils sont aidés dans cette affaire par des banques. Et ces sociétés, ils les créent en dehors de leur pays, les placent dans des paradis fiscaux, les alimentent avec beaucoup d'argent, parfois d'origine illicite, et ne payent quasiment rien en termes d'impôts. Les institutions des pays dont les citoyens ont été cités dans ces révélations se sont mises à l'œuvre partout depuis la publication de ces informations. Des chefs de gouvernement et autres personnalités incriminées se sont justifiées pour les uns, les autres ont tout simplement démissionné de leur poste. Des parquets et parlements ont entamé des poursuites judiciaires pour que la lumière soit faite au sujet des fortunes de ces personnes cité dans Panama Papers.
Merci Daniel Tambinzoni. Maître Hubert Kisoka, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut des Recherches en Droits Humains, IRDH, basé à Lubumbashi. D'abord, comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris les informations selon lesquelles certains médias détenaient 11 500 000 documents relatifs à l'évasion fiscale?
Nous avons été choqués, comme tout le monde, à travers le monde, dans plusieurs pays. Ces informations nous ont choqués parce qu'elles font preuve de beaucoup, beaucoup d'informations sur les avoirs, des grosses fortunes, des personnes qui ont des responsabilités d'État dans plusieurs pays, même des pays pauvres. Alors, quand on a révélé cela, ça nous a choqués. Et nos organisations se sont mises ensemble pour demander aux autorités de la République démocratique du Congo d'agir immédiatement parce que c'est des informations qui sont là sur la place publique internationale. Alors la RDC ne doit pas faire semblant comme si ces informations ne sont pas parvenues à la RDC. Voilà pourquoi nous les avons une fois de plus répétées.
Maître Hubert, vous avez été choqué par la publication, n'est-ce pas, de ces informations. Et dans votre déclaration, vous demandez que les informations soient approfondies sur base de ces éléments déjà publiés dans la presse. Et vous insistez là-dessus. Et êtes-vous convaincu que les institutions dont vous parlez, les institutions judiciaires et parlementaires, n'ont rien fait jusque-là?
Elles ont fait quelque chose, ce n'est pas public. Vous savez que les institutions publiques ont l'obligation de rendre compte à la population. S'il n'y a rien qui est fait jusque-là, ça veut dire que s'il y avait quelque chose qui pouvait être fait, ça devrait être rendu public. Vous vous souvenez, l'année passée, le professeur Ouluzo Lobandi, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, il avait publié une liste de noms des personnes et il avait dit qu'il avait déposé auprès du procureur de la République. Là, c'était un début d'investigation sur certaines allégations qui étaient faites en intérieur du pays. Et maintenant qu'il y a des informations qui viennent de l'extérieur, nous n'avons entendu personne. Jusqu'à là, je n'ai pas personnellement suivi le professeur Luzolo, moins encore le procureur général de la République qui avait déjà commencé des investigations l'année passée, mais depuis l'affaire, le scandale Panama Papers, et il n'y a aucune autorité officielle qui a dit quoi que ce soit.
C'est pourquoi
les ONG voudraient rappeler aux autorités qu'elles ont l'obligation de rendre compte à la population, elles doivent dire quelque chose, elles doivent faire s'adresser à la nation.
Oui, vous dites que ces institutions doivent, n'est-ce pas, dire quelque chose. Vous ne pensez pas que le caractère sensible des informations publiées, et les statuts des personnalités citées, ainsi que les principes de la présomption d'innocence, expliqueraient, n'est-ce pas, la discrétion des institutions congolaises dans la gestion de ces dossiers?
Et oui, mais justement, vous savez, il y a deux choses à ce niveau-là. Il y a la présomption d'innocence, le principe de présomption d'innocence qu'on doit observer, mais d'autre part, il y a l'obligation de l'État d'expliquer à l'opinion publique qui suit des informations. Et vous savez, c'est à travers le monde que tous les États sont en train de gérer ces informations. Il y a des États où, sur la simple publication des informations, et les chefs de gouvernement ont démissionné, ça c'est l'exemple de l'Islande, et il y a des États où les chefs de gouvernement sont en train de s'expliquer devant le Parlement, c'est le cas de la Grande-Bretagne, et vous savez que le gouvernement français a tout de suite donné des explications à son peuple pour dire qu'on ne puisse pas s'en faire, le gouvernement est en train d'entreprendre des enquêtes. Au Panama, le gouvernement du Panama lui-même a dit « Ok, nous avons suivi ce que la presse a dit, parce que la presse est le patron de pouvoir, nous allons approfondir nos propres investigations. » Alors, en RDC, on ne peut pas prétendre se cacher derrière la discrétion d'investigation pour ne rien dire à la population. L'affaire est déjà publique et c'est dit partout au monde, il faudrait que les autorités de la RDC puissent aussi expliquer à la population congolaise. On ne peut pas dire que non, bon, écoutez, nous sommes en train de faire le travail dans le silence.
Monsieur Hubert Kisoka, le porte-parole du gouvernement a affirmé avoir parlé avec certaines de ces personnalités et aucune ne reconnaît avoir des comptes offshore. Et on sait que dans ces genres d'affaires, la confidentialité est de mise. Dès lors que les personnes citées disent qu'elles ne sont pas impliquées, n'est-ce pas, dans cette affaire, vous ne pensez pas que l'institution qui tenterait, n'est-ce pas, de se pencher sur ces dossiers pourrait être butée contre la difficulté d'accès à l'information? On sait que c'est l'une des caractéristiques, n'est-ce pas, de ces sociétés offshore.
Le chef du gouvernement n'a pas compétence d'entreprendre des investigations. Ici, nous avons demandé aux autorités qui ont compétence, de par la loi et même la technicité, d'entreprendre des investigations. Le porte-parole du gouvernement, il est politicien et il a une orientation de ses points de vue. Nous avons demandé au parquet général, qui est un technicien à la matière et à qui le pouvoir reconnu par la loi, d'entreprendre des investigations, et ils peuvent bien collaborer avec la police internationale qu'on appelle Interpol pour avoir beaucoup plus d'informations.
Oui, mais vous ne pensez pas, c'est vrai que lui, il n'est pas habilité à mener des enquêtes, le porte-parole du gouvernement, il n'a pas dit qu'il a mené des enquêtes, mais vous ne pensez pas que, compte tenu de l'opacité qui caractérise ces sociétés offshore, il sera difficile, n'est-ce pas, à une institution comme les institutions nationales en RDC de pouvoir mener de telles enquêtes? Est-ce que vous pensez qu'elles ont assez de moyens, n'est-ce pas, pour obtenir l'information et pour approfondir les enquêtes?
À l'heure actuelle, les informations sont sur la place publique. Il suffit que le gouvernement puisse passer par les ambassades pour obtenir ces informations auprès de la presse internationale. On vous dit qu'il y a plus de 109 médias internationaux et avec le consortium des journalistes d'investigation qui ont obtenu plus de 11 millions de fichiers. Mais il suffit de contacter ces presses parce qu'ils sont en train de les publier au fur et à mesure. C'est déjà sur la place publique, on ne peut plus dire que c'est difficile à obtenir. Avant qu'on puisse les rendre publics, c'était impossible de savoir qui faisait quoi. Mais maintenant, c'est déjà publié, mais on ne peut même plus prétendre d'avoir accès à la difficulté d'accéder à l'information.
Merci.
Parce que tous les journaux de par le monde en parlent.
Merci Serge Kadima. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Les ONG demandent aux autorités judiciaires et parlementaires d'ouvrir une enquête sur les révélations des Panama Papers. Et comment vous réagissez à cette démarche de ces 5 ONG?
Merci pour cette opportunité. Je pense que ces ONG devraient en principe commencer, sinon ils auraient dû commencer par expliquer au peuple congolais c'est quoi qu'on appelle Panama Papers, c'est quoi qu'on appelle les comptes offshore. Donc je pense ici que moi, en tant qu'économiste de formation, j'ai l'obligation aussi d'expliquer à mes compatriotes c'est quoi les banques Oxford. Alors, il s'agit d'une banque implantée dans une juridiction ou un pays différent de la juridiction ou du pays dans lequel les dépositaires ou bien l'investisseur réside. Et il y a une deuxième question, celle de savoir c'est quoi d'abord un compte offshore. Je vais vous dire que c'est un compte bancaire tenu dans une banque située à l'extérieur du pays, des résidences. Il s'agit le plus souvent d'un compte placé dans une juridiction offrant des avantages au niveau des impôts et de certains services financiers. Donc, nous devons aussi, je crois bien que la population se pose la question de savoir qui a les droits d'avoir un compte Oxford. Je pense que toute personne qui estime que pour une raison ou une autre, il veut ouvrir un compte à l'étranger, un compte Oxford, il a les droits. Alors, lorsque des journaux, parce qu'on parle de 108 journaux, on parle de 11 millions de fichiers. Oui, qui dit ces fichiers par rapport aux personnalités politiques congolaises? Est-ce que ces fichiers établissent la culpabilité ou bien établissent le fait que nos autorités ou bien nos hommes d'affaires ont pu disséminer leurs actifs ou bien ils ont échappé au fisc? Cela n'est pas démontré. Mais parce que c'est pas démontré, pourquoi voudrez-vous que les autorités judiciaires ou bien les autorités parlementaires puissent se saisir du dossier ou bien ouvrir des enquêtes? Je pense
justement les éléments d'information sont là qui peuvent, n'est-ce pas, pousser ces institutions à exploiter ces pistes pour approfondir les enquêtes afin d'établir ou pas, n'est-ce pas, la culpabilité de ces personnalités qui sont citées?
Non, je pense que le fait d'avoir un compte offshore ne dit pas ne signifie pas qu'on a forcément échappé peut-être à la fiscalité ou bien on a contribué d'une manière ou d'une autre à l'évasion fiscale. Je pense tout simplement que toutes les personnalités du monde qui sont citées, c'est par rapport aux cas qui ne sont pas les mêmes. Et je pense que l'analyse qui est reprise dans les rapports des différents journaux internationaux, je pense que doivent être examinés au cas par cas. Mais pour ce qui nous concerne, je vais même dire, je vais aller loin. Peut-être que les gens pensent que c'est grave. Non, c'est pas grave dans la mesure où je venais de donner des explications par rapport d'abord à la banque offshore, c'est quoi un compte. Et puis je vais ici dire que ça dépend d'une banque à une autre, ça dépend du type, de quel type de compte que vous ouvrez. Je pense qu'avec 1 000 $, avec 2 000 $, pour certaines banques, on peut ouvrir un compte offshore. Donc, je pense que si on avait dit que pour ce qui nous concerne, nos autorités ou bien nos compatriotes qui sont cités, effectivement, ils ont contribué à l'évasion fiscale, à ce moment-là, on peut. Mais cela n'empêche pas, évidemment, s'il y a des gens qui ont des preuves, s'il y a nos compatriotes qui ont des preuves, ou alors si la justice congolaise, je ne veux pas ici interférer ou empêcher la justice de faire son travail, si la justice estime qu'il y a des éléments qui peuvent les mettre sur une piste d'enquête, je ne peux pas empêcher la justice, mais sinon j'avais l'obligation d'expliquer à mes compatriotes c'est quoi d'abord ce dont on parle ici.
Oui, on rappelle que l'émission est aussi pédagogique. Monsieur Serkadima, nous avons suivi comment des pays à travers le monde, comment des personnalités, n'est-ce pas, à travers le monde, ont réagi dès que les premières informations ont paru dans la presse, mais la RDC est restée silencieuse. C'est vrai que vous n'êtes pas les porte-parole du gouvernement pour expliquer ces silences de la RDC, mais est-ce que vous comprenez d'abord l'attitude affichée par le gouvernement congolais?
Bon, je ne fais pas partie du gouvernement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement comme vous l'avez dit, mais en tant que citoyen congolais, je vous ai dit ici que la situation, ou bien les situations des personnes citées dans ces rapports, dans ces papiers, sont à examiner au cas par cas. Je vais vous donner l'exemple du Premier ministre David Cameron. Il a dit, il y a 4 jours, qu'il reconnaît avoir, en 2010, un compte offshore qui avait une valeur de 30 000 livres.
Qui représente
qui représentait 30 000 euros. Donc, vous voyez, il a dit que c'était pas illégal. C'était pas la fin du monde. Ça, c'était pour ce qui lui concernait. Alors, pour ce qui
concerne.
Alors, moi, j'ai suivi personnellement, comme vous aussi, vous l'avez évoqué, le porte-parole du gouvernement, qui a eu, lui, l'avantage et l'opportunité d'échanger avec certaines personnes, entre guillemets, qui sont citées, qui ont confirmé qu'ils n'ont pas de compte. Alors, ces personnes attendent l'organe ou la personne qui pourra mentionner son nom ou bien leur nom dans un organe de presse ou bien dans une chaîne de télévision pour qu'ils puissent tenter une action en justice. Alors à ce stade, ils sont présumés innocents s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont impliqués. Mais pour s'il faut s'en tenir à ce qui est dans les différents rapports, je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer.
Saskadima, certains analystes ont dénoncé la volonté sélective de livrer certains accusés en pâture médiatique. Vous constatez comme ces analystes le caractère sélectif de la publication de ces différentes informations?
Bon, je ne sais pas de quoi il parle, sincèrement, je ne sais pas de quoi il parle, mais moi je m'en tiens en fait, je reste dans la logique du rapport qui fait parler les gens aujourd'hui, les rapports de Panama Papers. Donc, lorsqu'on s'en tient à cela, et aujourd'hui, j'ai eu quand même l'avantage, je ne vais pas dire que j'ai lu tous les documents, mais j'ai eu quand même l'avantage de parcourir ces documents-là. Je ne vois pas là où on a cité nommément certaines personnes dont vous faites allusion.
Serge Kadima, au-delà de tout ce que nous disons, ce ne sont pas les administrations fiscales à travers le monde qui sont remises en cause.
Bon, je ne pense pas dans la mesure où je vous expliquais c'est quoi. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nos compatriotes, que ce soit de l'opposition, de la majorité, ou bien de la société civile, nous avons des comptes à l'étranger. Mais tout dépend de l'orientation qu'on donne à ces comptes-là. Si quelqu'un, pour une raison ou une autre, il accepte parce que il n'y a pas quelque chose d'illégal d'ouvrir un compte chez Oxford, offshore, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on doit, et surtout qu'il n'est pas établi que ces personnes ont manifestement, sinon ils ont eu la volonté de vouloir échapper à tout ce qui est légal. Mais sinon, dans la mesure où la procédure a été suivie, à moins qu'il y ait des compatriotes ou bien d'autres personnalités du monde international ou bien certains auditeurs internationaux ou nationaux qui ont des preuves de dissimuler, sinon qui ont des preuves que les personnes qui ont ouvert ces comptes-là ont pu, sinon avaient cette volonté de vouloir dissimuler leurs actifs, ou bien ils ont voulu échapper au fisc.
Et ce qui est souvent dénoncé, c'est plutôt l'opacité, n'est-ce pas, des opérations dans ces sociétés offshore qui par ailleurs ne sont pas illégales, mais ce sont les opérations qui sont opaques, qui sont dénoncées par
Je vais vous dire une chose. Nous avons beaucoup de banques ici au pays. Toutes les opérations que moi j'ai fait dans mes propres comptes ici au pays ne sont pas connues de tout le monde. Lorsque je vais en banque, je n'appelle pas Radio Capi, je n'appelle pas les chaînes de télévision pour qu'ils m'accompagnent, me filmer et voir la manière dont je fais mes opérations.
Merci,
dans les banques.
Serge Kadma. Israël Moutala, journaliste, analyste politique et économique. Comment analysez-vous la démarche de ces 5 ONG qui demandent des enquêtes approfondies sur base des informations des Panama Papers?
Bon, c'est une question, à mon sens, qui a deux volets. Il y a un volet moral et un volet légalité. Et j'aimerais d'abord préciser certaines choses ici. J'ai vu que Serge Kadima a édulcoré la notion des comptes offshore. Non, c'est pas exactement ce qu'il a dit. C'est vrai que les comptes offshore, il y a une notion d'extraterritorialité. Ça veut dire que c'est un compte que l'on ouvre dans un pays autre que le sien, mais pas dans n'importe quel pays. Il ne peut pas me dire que ouvrir un compte en France ou au Congo-Brazzaville, c'est ça un compte offshore. Non. Dans les comptes offshore, justement, il y a une volonté délibérée, justement, de rechercher une basse fiscalité. Ça peut se comprendre. Il y a aussi une notion de cacher des avoirs. Voilà pourquoi les gens accourent à Panama plutôt qu'en France, plutôt qu'au Congo-Brazza, plutôt qu'en Angola. Non, il ne peut pas dire que ouvrir un compte à l'étranger, c'est un compte offshore. Non. Ça, c'est édulcorer la notion de compte offshore. À la base d'un compte offshore, il y a une volonté de dissimuler ses avoirs que l'on peut gagner honnêtement ou malhonnêtement. Il y a aussi une volonté, justement, d'échapper à une certaine fiscalité qu'on estime agressive.
Ce qui n'est pas une mauvaise chose.
Non, ce qui n'est pas... Voilà, je dis. Ce qui peut être une mauvaise chose sur le plan moral. Mais ce qui peut ne pas être illégal. Donc, ça veut dire que un citoyen peut estimer que la taxation dans son pays ne lui convient pas. Et donc, il soustrait une partie.
On se souvient des cas de Depardieu, le Français, qui a quitté la France et qui est allé s'établir en Belgique, et parce qu'il a estimé que la France était un enfer fiscal, compte tenu de la rigidité, n'est-ce pas, de sa législation.
Tout à fait. Donc, il y a cette... Mais à la base, il y a une notion d'immoralité, parce qu'on estime que un citoyen, une entreprise qui est installée au pays doit contribuer aux charges publiques parce que l'État a besoin des moyens pour entretenir les routes, pour construire des hôpitaux et pour nourrir son armée, l'équiper et tout ça. Donc l'État a besoin de moyens. Tu ne veux pas habiter dans un pays et te soustraire justement à l'obligation légale. Donc c'est immoral sur le plan de principe, mais ça peut être tout à fait légal.
Est-ce que vous comprenez la démarche de ces 5 ONG?
Non, ça veut dire que fondamentalement, je comprends que ces ONG puissent justement demander qu'il y ait plus de transparence dans un pays. Parce que nous sommes dans un pays d'opacité. L'opacité, il ne faut pas d'abord aller la chercher à Panama. L'opacité d'abord dans nos textes, dans notre constitution. Parce que tous les dirigeants actuels, du président au premier ministre, ainsi que tous les ministres et les parlementaires, il y a une obligation de déclarer leurs avoirs, mais sous scellés. Et donc, dans un pays comme celui-ci, réputé parmi les plus corrompus au monde, il est de bon droit que les avoirs de nos dirigeants politiques, parce que c'est de l'argent public, parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'autre travail, donc tous leurs avoirs viennent des fonctions qu'ils occupent. Et donc, il est de bon droit que tout le monde déclare ouvertement son patrimoine. Ça permet justement d'assainir la vie politique, de réduire les risques de corruption ou les tentatives de corruption. Donc, c'est dans ce sens-là que la transparence, c'est une vertu. Et ces ONG, font, si ils recherchent un souci de transparence, c'est une excellente nouvelle.
À votre avis, qu'est-ce qui expliquerait l'ampleur que prend ces phénomènes d'évasion fiscale?
Donc, ce qui explique, c'est que nous sommes dans un contexte où les États ont très peu de moyens pour financer leur développement, leur fonctionnement, et que il est malsain aujourd'hui que des citoyens qui ont des revenus confortables ou importants par rapport à la moyenne puissent faire en sorte que ces revenus échappent à une quelconque taxation. C'est immoral, parce que les plus pauvres d'entre nous ne peuvent pas justement se permettre ce luxe-là. Donc, j'ai entendu aussi ici dire qu'on peut ouvrir un compte offshore avec 1000 dollars. Mais non, on ne peut pas ouvrir un compte offshore avec 1000 dollars, bon sang. Parce que je rappelle d'abord que c'est toute une chaîne. Ça veut dire que pourquoi on prendrait 1000 dollars à le mettre à Panama? Non, mais 1000 dollars, on le mettrait, on pourrait même le thésauriser, mettre ça dans sa poche. Et donc voilà, on pourrait même le mettre dans un compte ici, dans un compte épargne ici. Non, ça veut dire qu'on ne peut pas, honnêtement, une personne sensée ne peut pas aller mettre 1000 dollars dans un compte offshore. Et donc, les comptes offshore ont une notion d'immoralité intrinsèque en eux, mais pas forcément une notion d'illégalité. Donc je précise la chose parce que les lois fiscales diffèrent d'un pays à un autre. Il y a des pays où on estime que les citoyens doivent déclarer tous leurs avoirs au pays comme à l'extérieur pour que le fisc puisse voir dans quelle mesure taxer ces revenus-là.
Isaïe Moutala, la situation économique de certains pays ne serait pas de ces pays de facto des paradis fiscaux. Un pays qui dit venez chez moi, il n'y a pas d'activité, je ne vais pas vous taxer. Est-ce que la précarité de ces pays ne ferait pas de potentiels paradis fiscaux?
Oui, c'est possible, c'est peut-être le choix justement, parce que il y a des gros avantages à retirer justement d'être un paradis fiscal, parce que quand vous êtes un paradis fiscal et que vous accueillez beaucoup de capitaux, vous pouvez avoir les moyens justement de financer votre propre développement, parce que votre activité hôtelière, votre activité touristique, bref, vous pouvez avoir des revenus quand même assez importants. Mais il y a quelque chose d'immoral dans ça, c'est ça le problème. Et que et le problème, c'est que même les gens qui vont dans les paradis fiscaux, ils ne vont pas de manière découverte. Ça veut dire qu'ils se servent souvent de ce qu'on appelle les sociétés écrans. Ils ont des noms d'emprunt. Ils ont plusieurs sociétés pour dissimuler. Ils ne veulent pas que, justement, leur identité soit découverte. Et donc, nous sommes, par exemple, au Congo, dans un système fiscal déclaratif qui repose sur la bonne foi de tout un chacun. Chacun doit déclarer ses avoirs. Et c'est en fonction de votre déclaration que justement on vous impose. Et donc, mais sur le plan, encore une fois, de principe, je vais vous donner quelques chiffres clés. L'évasion fiscale, ça représente à peu près 150 milliards de dollars, plus de 150 milliards de dollars dans le monde.
Par an.
En Europe, c'est à peu près 70 milliards de dollars aussi. Voilà. Et en France, pour la France, c'est à peu près 20 à 25 milliards de dollars d'évasion fiscale. C'est quand même, c'est pas rien.
C'est beaucoup.
Mais j'estime que par rapport à la RDC, donc nous ne sommes pas très 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 concernés par rapport à ce phénomène. Donc sur ces sommes-là, je ne pense pas que nous soyons importants, qu'il y ait beaucoup d'évasés fiscaux ici qui ont des sommes importantes. Donc là-dessus, je doute fort.
Merci Maître Hubert Tshizoka. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kolozi, dans la province de Lualaba.
Philippe Maseka à Kolozi au Lualaba. Peut-on vraiment s'attendre à des résultats positifs à l'issue de l'enquête sollicitée par ces ONG, car de nombreuses révélations sur le blanchiment d'argent en RDC n'ont jamais eu d'effet?
Oui, Maître Hubert Tshizoka.
Oui, vous savez, nous avons une mission comme organisation non gouvernementale de porter à l'attention de l'autorité l'information qu'il faut. Si l'autorité ne veut pas faire son travail, il appartient à la population de constater, parce que c'est le peuple qui est le souverain primaire. Si l'autorité ne veut pas faire son travail, au moins les ONG auront fait les leurs. Si vous permettez, je voudrais aussi faire remarquer que pendant que la population à travers le monde est choqué de l'ampleur et du grand nombre et des fonds qui échappent aux pays pauvres. Et je suis une fois de plus un peu ahuri d'entendre
et de la part de notre ami de PPRD qui essaie de minimiser le fait. Et je rappelle ici que la commission économique de l'ONU et le panel des hauts niveaux d'experts de l'Union africaine avaient déjà l'année passée dénoncé, c'était en janvier 2015, la fuite des capitaux qui venaient de nos pays et de l'ordre de plus de 50 000 milliards. Et aujourd'hui, si on commence à donner des noms, il faudrait que nous puissions nous animer et savoir qu'est-ce qui se passe. En plus de l'aspect moral qui a été souligné tout à l'heure, il y a l'aspect légal. Quand on pratique une fraude fiscale, c'est une infraction. Quand on pratique le blanchiment d'argent, c'est une infraction. C'est pourquoi nous disons, il y a beaucoup plus de raisons de croire que les personnes qui ont mis de l'argent à l'extérieur du pays, dans des comptes cachés, pour que personne ne puisse savoir que ça leur appartient, il y a de plus fortes raisons de croire que les personnes ont pratiqué la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. C'est pourquoi l'autorité, et plutôt l'autorité judiciaire, doit entreprendre des enquêtes là-dessus. C'est grave, on ne doit pas minimiser, c'est très grave même parce que le pays n'a même pas d'argent pour organiser les élections, et il y a de l'argent qui échappe au trésor public.
Maître Hubert Tshisoka, vous ne pensez pas que la précarité économique de certains pays expose ces pays, n'est-ce pas, à devenir des paradis fiscaux, hein? Un pays qui estime que bon, il n'y a pas d'activité chez lui, il demande aux entreprises de venir investir, il dit à ces entreprises qu'elles ne seront pas taxées. L'essentiel pour ces pays, c'est que ces entreprises puissent, n'est-ce pas, créer de l'emploi pour sa population. Est-ce que la précarité, la pauvreté ne serait pas un des facteurs qu'il faut combattre efficacement, n'est-ce pas, l'évasion fiscale?
Oui, vous savez, dans le monde, on est en train de combattre les paradis fiscaux. Vous savez, l'année passée et en 2014, il y avait une très forte pression de l'Union européenne et des États-Unis sur la Suisse pour qu'elle ne puisse plus contenir des coffres forts secrets où les dictateurs africains vont cacher l'argent. Et vous avez vu que la Suisse a cédé, commence à collaborer avec les États-Unis spécifiquement. Il y a aussi d'autres pays qui continuent à pratiquer cela. Mais ce qui nous concerne, nous, la RDC, ce sont les personnes qui occupent des fonctions officielles et qui agissent au nom de l'État, qui devraient au départ, comme a dit mon prédécesseur, déclarer leurs avoirs, mais au lieu de les déclarer, ils vont les cacher. Et on les cache avec l'idée de ne rien payer comme taxe à l'État. Non seulement l'idée de ne rien payer comme taxe à l'État, même la source de provenance de ces fonds sont douteuses. On pense qu'il y a blanchiment d'argent et l'argent a une source douteuse. C'est pourquoi il faudrait que l'État puisse se lever. C'est grave, il ne faut pas qu'on puisse négliger ou qu'on puisse minimiser tel qu'on est semblé de le dire par les gens qui sont de l'autre côté du pouvoir.
Maître Hubert, que répondez-vous à ces analystes qui dénoncent, n'est-ce pas, le caractère sélectif de la publication de ces informations, hein? Ils disent, mais on ne cite aucun Américain, aucune entreprise américaine, c'est plutôt les Russes, c'est plutôt les Chinois, c'est plutôt l'Arabie Saoudite. Pourquoi pas les Américains et les Africains? Est-ce que vous pensez qu'il y a vous voyez le caractère sélectif dans la publication de ces informations?
Bon, écoutez, nous n'avons pas beaucoup d'informations. Hein. Nous prenons les indications qui nous sont données et nous regardons quel est l'intérêt pour la RDC. Si les analystes politiques pensent qu'il y a des Américains, ah ben, qui puissent les publier aussi. Et puis je ne vois pas quel intérêt pour moi, Congolais, de savoir s'il y a des Américains qui pratiquent l'évasion fiscale. Le plus grand intérêt, pour moi, en tant que Congolais, c'est de savoir qu'il y a des autorités législatives congolaises qui pratiquent l'évasion fiscale et qui sont soupçonnées de blanchiment d'argent.
Merci.
La réplique ne serait pas, mais ne cite pas les Américains. Là, n'est pas notre problème. Notre
Merci.
Problème, c'est que il y a des personnalités congolaises qui sont citées, eh bien, cherchant à savoir pourquoi on les cite et si c'est vrai, qu'on puisse les poursuivre, si c'est faux, qu'on puisse les innocenter.
Merci, Maître Hubert Tshisoka. Monsieur Serge Kadima, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Likasi.
Fabrice Nkiama, à Likasi, province du Haut-Katanga. Concernant ce dossier Panama Papers, on en parle partout au monde, sauf en RDC. L'affaire est déjà mise sur la place publique. certaines personnalités congolaises ont été citées, normalement, dans pareil cas, les personnes citées devraient tout naturellement se justifier devant la nation afin de mettre cette affaire au clair, au cas où il y a gravité, que la justice puisse en saisir du dossier. Ce qui est grave, rien ne fait dans un sens ou dans l'autre. Grave encore, même les médias nationaux calment de mots et intimidation. Moi, je pense qu'au lieu que les personnes citées attendent de traduire en justice les journalistes congolais qui écriraient ou citeraient leurs noms dans les médias, l'essentiel est d'affronter l'information qui circule déjà.
Monsieur Serge Kadima.
Bon, je vais dire à mon compatriote Fabrice Mpiana qui appelle Delicacy, que lui qui dit que ces dossiers qu'on parle, ces noms dont on parle partout au monde, ici au Congo on n'en parle pas. Nous sommes ici à la radio Capi, nous en parlons. Lui, Delicacy, là où il en parle. Et Maître Hubert Tshiswaka en parle. Il y a les ONG du Katanga qui en parlent. Le porte-parole du gouvernement, on lui a posé une question là-dessus il y a 4 jours. Il a parlé de cela.
Il y a aussi un député, Pouela, qui s'est plaint de la démotion hier à l'Assemblée nationale.
Il a parlé.
Le fait que, on n'en parlait pas assez.
C'est pour rassurer mon compatriote Fabrice qu'on en parle. Mais les problèmes ici, j'ai répondu ici tout à l'heure que les rapports tels que, les contenus du Panama Papers fait état qu'il y a des personnalités du monde qui ont été citées, mais je vous ai dit que leurs cas sont analysés au cas par cas. Je vais un peu dire à Monsieur Israël Moutal, qui pense que, qui croit que la raison est de son obédience. J'ai dit ici, et je vais le répéter, j'ai dit qu'une société offshore, c'est le nom couramment donné aux entreprises enregistrées dans les pays qui proposent une fiscalité très faible et des réglementations très accommodantes, comme les îles Vierges britanniques, comme le Panama. Donc, c'est pour dire que, ici, je n'ai pas dit qu'on peut ouvrir n'importe quel compte et l'appeler compte offshore. Et j'ai donné les définitions. Je ne sais pas si vous étiez distrait pendant que je parlais. J'ai dit ici.
Non, tu ne parlais pas, tu.
J'ai dit que tu lis le papier.
Israël, vous allez réagir.
Les définitions que tu n'as pas interprétées.
Israël, laissez ça,
je suis en train de. Il ne faut pas t'agiter. Tu auras le temps de parler. Alors, j'étais en train de dire que pour ce qui concerne les plafonds minimums pour les placements, ça dépend d'une banque à une autre. Ça dépend du type de compte que vous ouvrez. Ça va des 1 million, et pardon, des 1000 dollars à 500 000. Ça dépend d'une banque à une autre. Alors, je vais dire que s'il y a des gens, moi j'ai l'impression que Monsieur Israël Moutala a au moins des preuves, ou bien Maître Hubert Tshiswaka lui a des preuves, que les autorités qui sont citées, mais qui ne citent pas ici. Citez-nous au moins une seule autorité ou bien un officiel qui est en fonction.
Nous ne sommes pas venus ici citer les noms des personnalités.
Oui, c'est l'impression que j'ai.
Analyser les phénomènes.
Je suis parti des principes. J'ai donné les définitions, sinon la définition de ce qu'on appelle société offshore. J'ai donné la définition, c'est quoi un compte. Alors, je vais ici.
Serge Kadima, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre l'évasion fiscale en RDC?
Je pense qu'il faut appliquer l'opinion. Je pense qu'il faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi. Il y a la loi mère qui est la Constitution. La Constitution nous donne des directives. Il y a les lois des partis qu'il faut respecter. Et je pense, à mon avis, que si il y a des gens qui se sont compromis dans la gestion ou bien dans ce qu'on appelle l'évasion fiscale, il faut les sanctionner, les amener à Makala.
Vous évoquez toutes ces lois, mais on sait que récemment, le gouvernement s'est plaint du fait qu'il y a coulage des recettes publiques.
Mais je sais que à la suite de ces séminaires-là, il y a eu quand même des sanctions. Quand on parle de coulage public, on fait allusion tout de suite aux régies financières. Et quand on parle des régies financières, je fais allusion à la DGDA, je fais...
On peut dire aujourd'hui que ce phénomène n'existe plus, les coulages des recettes
publiques. Je ne peux pas me permettre de dire ici que ce phénomène n'existait pas, mais au moins, dès lors que le gouvernement a pris conscience d'organiser ne fût-ce que les séminaires sur le coulage public et vouloir identifier les problèmes et évaluer quel type de solution apporter, il y a eu des sanctions qu'on a eu à affiger aux responsables de régie financière. Et je pense que ces sanctions n'est qu'un début des solutions. Et nous souhaitons que les choses puissent s'améliorer parce que les principales recettes de l'État, nous les avons des régies financières. Alors, merci. Si on arrive à arrêter les coulages des recettes de l'État, nous tous nous serons bien. L'amélioration du vie quotidien pour lequel nous nous battons en tant qu'acteurs politiques sera effective.
Merci. Israël Moutala, il y a une question qui vous adresse, elle vient de Bukavu. au site Kivu.
Jean Basilaire de Bukavu au site Kivu. Je pense que la démarche de ces ONG est encouragée car elle vise à lutter contre l'évasion fiscale en République démocratique du Congo. Cependant, je reste pessimiste quant à l'aboutissement de cette démarche, d'autant plus que ces mêmes autorités parlementaires et judiciaires y sont impliquées bien qu'elles ne soient pas citées par Panama Papers. En fait, j'estime que la RDC devrait renforcer ses institutions, la démocratie et l'état de droit afin de mieux contrôler ses richesses.
Israël Moutala.
Bon, je suis parfaitement presque d'accord avec ce qu'il a dit, donc je suis pessimiste. Ça veut dire que nous n'avons pas des institutions assez fortes moralement et assez fortes techniquement pour investiguer et nous ramener des éventuels gains qui découleraient d'une éventuelle évasion ou fraude fiscale.
Mais encore et donc, il faut renforcer les ajustations fiscales.
Il faut renforcer d'abord la loi mère, c'est la transparence. La transparence, il faut que nous dévions, que nous l'appliquions nous-mêmes. Or, nous avons une constitution, justement, qui est championne en opacité. Nous devons quand même nous-mêmes prêcher par l'exemple. Tu veux devenir président de la République, tu déclares tes avoirs à l'entrant, tu déclares en sortant, et publié dans la presse. On ne doit pas faire mystère, justement, de gens qui sont
pas sous pli fermé.
Tu veux devenir Premier ministre, tu déclares ton patrimoine à l'entrée, tu déclares à la sortie, tu es ministre mêmement, et donc toutes les personnes qui veulent justement accéder à des postes de responsabilité publique doivent être irréprochables sur le plan de leurs avoirs. Donc l'origine de leurs avoirs doit être facile, doit être prouvable, tracé sans problème. Et donc ici encore je reviens sur le communicateur du PPRD pour dire que c'est insensé pour quelqu'un de dépenser 1 000 $, aller mettre dans un compte, parce que il ne va pas ouvrir comme ça, il doit passer par un cabinet, il doit payer les frais d'avocat, et vous voyez quelqu'un de censé dépenser presque la moitié de cette somme pour consulter un cabinet d'avocat et puis mettre son argent là-bas. Ça n'a aucun sens, parce que cette somme de 1 000 $, il peut la mettre dans une banque locale ici, et d'ailleurs elle ne va éveiller aucun soupçon, et ça peut lui rapporter 2% ou 3 ou 4% l'an d'intérêt. Et donc, voilà, on ne va pas à Panama et dans les paradis fiscaux pour une somme aussi dérisoire que ça. Donc, il ne faut pas réciter des histoires comme ça, il faut les comprendre.
Pour combattre ce phénomène à travers le monde, les enquêteurs sont souvent butés contre ces problèmes d'échange d'informations. Ils disent que les États ne collaborent pas, surtout les grandes puissances. Est-ce que vous pensez que, de la part des grandes puissances, il y a cette volonté de combattre l'évasion fiscale à travers le monde?
L'évasion, les phénomènes de paradis fiscal, justement, il y a eu une prise de conscience en 2008. Je crois qu'il y a eu des options fortes qui ont été levées au G20, je crois, à cette époque, et le FMI et beaucoup d'institutions, parce que les premières victimes de l'évasion fiscale, ce sont les États occidentaux, les États-Unis en tête.
Est-ce qu'ils combattent efficacement ce phénomène?
Ah non, mais ça veut dire qu'il y a une prise de conscience.
Il y en a qui disent que, ils semblent combattre. Entre-temps, c'est eux aussi qui entretiennent, n'est-ce pas?
Non, mais c'est les statu quo. Ça veut dire que c'est un problème complexe. Ça veut dire qu'il faut des instruments, parce qu'il faut des instruments légaux pour contraindre. Il faut des instruments légaux pour contraindre tout ce qui pratique la fraude fiscale. Donc, on va taper sur qui? Sur l'évadé fiscal ou aussi sur toutes les personnes qui l'aident, justement, à mettre à l'abri une partie de ses avoirs licites ou non licite. Et donc, il y a tout ça.
En conclusion, je
dirais qu'il y a une volonté de plus en plus manifeste à combattre ce phénomène, mais ce phénomène ici, on peut le réduire significativement, parce que j'ai vu, par exemple, que les grandes banques, notamment suisses, vont faire à partir, je crois, de l'année prochaine ou de l'année suivante, ce qu'ils appellent une communication de données systématiques à certaines administrations fiscales qui en ont fait la demande. Et moi, ici, par exemple, j'ai un ami de la presse internationale qui détient une liste aussi, qui me dit de personnalités congolaises qui ont des comptes en Suisse et des comptes. Voilà. Alors là, par exemple, si notre fisc a un arrangement avec l'État suisse ou avec les banques suisses, on peut lui demander les comptes de tous qui ont logé. Voilà.
Merci.
Voilà à peu près, c'est une communication d'information.
Merci,
pour être en mesure de retracer.
Maître Hubert Kisoka, en conclusion, est-ce que vous pensez que votre démarche va aboutir?
Je peux déjà vous dire merci beaucoup parce que vous nous avez donné une opportunité de rappeler une fois de plus à l'autorité publique congolaise qu'elle doit faire son travail, bien que le représentant du parti au pouvoir qui est avec vous au studio semble minimiser l'affaire, et au moins l'autorité a entendu.
Et puis, il faudrait aussi qu'on puisse dire une chose, nous avons entendu les médias publics clairs.
Merci, Yves Sissoka, monsieur Serge Kadima, pour votre conclusion.
Non, ma conclusion est que nous devons rester sereins. C'est vrai qu'il y a des agitations, notamment j'ai vu monsieur Israël Moutala s'agiter ici et il parle ici de son ami qui est en Suisse, qui a des papiers, donc je ne peux pas m'en tenir à ces dires. Ce sont des spéculations, des rumeurs. On doit éviter de créer la confusion dans l'opinion nationale et internationale.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, qu'elle écoutait Alain Irung sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté, merci. Et on se retrouve ce mercredi pour un autre débat.